Bonjour et bienvenue. Donc, vous êtes venu de la conférence de Nazir Abad, c'est pas plus que moi, à propos de l'immigration et de l'adoption. Toutes deux étant caractérisées par départ, une rupture des origines pour un nouveau lieu, pour de nouvelles relations sociales ou affectives. Donc, Nazir va développer avec éventuellement quelque chose d'un, je ne sais pas comment on pourrait appeler, d'une rupture où se retrouve une reconstruction d'identité. Tu parles trop fort. Il faut que je parle plus fort. Bien. Alors, je vais vous présenter Nazir Abad, qui est donc psychanalyste, docteur en psychologie, membre de l'association acadienne internationale, ancien directeur de CNP. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont je vais vous citer un certain nombre, et vous verrez que le fil de l'enfance et de l'immigration est souvent, bien souvent, rouge. Donc, les deux derniers, plus théoriques, c'est psychologie de l'immigration en collaboration avec Charles Levent. Mais avant, il y a eu l'enfant adopté de sa famille, adoption et parentalité. Quelque chose d'un peu plus subtil, c'est la langue et la frontière. Voilà. Il y a précédemment encore les enjeux d'une psychanalyse avec un enfant. Il a écrit aussi sur François Tolto, et de façon, je dirais, d'abord plus littéraire, plus romancée, les cas d'adolescents qu'il a mis en récit. Voilà. Et puis quelque chose peut-être d'encore plus personnel, qui est le dernier livre, qui s'appelle La Bible.
Ouais.
Une Bible. Voilà. Donc, et ça, voilà la présentation pour Nazir. Avant, je voudrais vous dire un petit mot de nous qui organisons cette conférence, c'est-à-dire de l'EPO, puisque si vous le désirez, après la conférence et la discussion, il y aura la présentation des activités de cet EPO. L'EPO, c'est l'école psychanalytique du Centre-Ouest, qui est un groupe régional de l'association acadienne internationale. Alors, juste les quelques mots que je voudrais dire. Pourquoi encore s'interroger et vouloir théoriser la psychanalyse aujourd'hui? Il me semble que c'est dans le monde où nous vivons, de plus en plus numérisé, où chaque personne devient une unité dont on pourrait rendre compte par l'addition de toutes ses caractéristiques. Quand j'entends caractéristiques, je veux dire aussi bien ses comportements, que ses organes de l'ADN aux neurones, en passant par les fonctions, ils ont fait peut-être l'expérience, vous allez voir des médecins spécialistes, où il y a une réduction d'un organe avec la technique qui va avec. Par exemple. Nous l'avons aussi effectivement dans le fait que tout le comportement quasiment peut être numérisé actuellement, reproduit à travers, je ne sais pas, par exemple, ce qui est très à la mode, c'est les autopilotes, c'est-à-dire ces voitures qui se conduiraient toutes seules, qui ne font que cocher les différents comportements observés sur un conducteur, numérisé et envoyé dans une machine. Donc, par rapport à cette vision de l'humain, qui serait que l'addition de toutes ces différentes composantes, la psychanalyse reste peut-être une des rares théorisations rationnelles d'un être humain. Quand je dis théorisation rationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ésotérisme. Alors, il y en a beaucoup en ce moment. Les médecines parallèles, les naturopathes, les choses, les trucs, les machins. Ni religieux, puisque la religion se porte pas mal, semble-t-il. Pas forcément sous vos latitudes, mais ailleurs, semble-t-il. Il me semble que la psychanalyse, donc, une théorisation, une tentative de théorisation rationnelle de ce que peut être un sujet humain, c'est n'est pas justement cette somme homogène qu'on nous propose, mais au contraire quelque chose d'hétérogène qui est pris entre ses désirs et sa raison, ses rêves et la réalité contre laquelle il se pose, etc., etc. Donc c'est une tentative, disons, d'une école comme la nôtre, ou même de l'association académique internationale, c'est d'essayer de poser la possibilité qu'un sujet humain puisse encore avoir dans son hétérogénéité même quel espace de liberté, y compris de pensée intérieurement. Voilà. Donc je passe la parole à Nadia.
Est-ce que vous entendez bien, parce que ça résonne beaucoup ici. D'accord. Écoutez, merci d'être venu. Et c'est vrai que ces deux thèmes qui m'intéressent, l'adoption et l'immigration. Et j'ai écrit sur les deux thèmes parce que je trouve effectivement beaucoup d'éléments communs dans le destin de l'adopté comme dans le destin de l'immigré. C'est quelque chose de commun, c'est en rapport effectivement avec la rupture, comme mon collègue vient de le dire. Mais quand on dit rupture, il ne faut pas comprendre séparation. On peut être en rupture avec son pays, en rupture avec sa culture, en rupture avec sa famille. Mais cela ne change rien à la nature de cette relation qu'on a avec son pays, avec sa famille ou avec ses parents. La rupture implique un passage à l'acte, un acte violent, une séparation qui n'arrive pas à se symboliser. Quand on dit c'est séparé, on introduit, c'est quelque chose qu'on appelle cette dimension symbolique qui permet à quelqu'un de partir, de se séparer, sans pour autant être en rupture. On peut bien se séparer, maintenir un lien, maintenir effectivement ce qu'elle est, une valeur qui est la nôtre au moment où on était ensemble. Vous voyez, les parents ont à se séparer de leurs enfants. Les enfants ont à se séparer de leurs parents. Se séparer dans ce sens-là implique, c'est-à-dire, cette responsabilité par rapport à leur destin, les responsabilités d'eux-mêmes. On dit s'élancer, avoir volé de ses propres ailes. C'est ça qu'on appelle se séparer. Mais pour se séparer, il faut s'appuyer, grandir, développer effectivement son propre désir, avoir une valeur, les valeurs de ceux qui étaient autour de nous, qui nous ont aidés à grandir, qui nous ont éduqués. C'est pour cela qu'il n'y a de séparation possible que dans la mesure où il y a cette dimension symbolique qui permet à chacun d'aller à la rencontre de son destin. La rupture peut impliquer effectivement une coupure définitive ou transitoire. C'est quelque chose, je vous parle de ça parce que c'est quelque chose de fondamental dans l'adoption et chez les immigrés. Et c'est pour cela, parfois, il y a un malentendu terrible autour des immigrés. Est-il français ou pas ? Parlait-il la langue française ou pas? Mangeait-il la cuisine libanaise, vous voyez? La cuisine française ou pas? C'est-à-dire, sont-ils intégrés ou pas? Mais comment on peut décider que quelqu'un est intégré? On a tendance à se baser sur l'idée d'une rupture possible avec les origines pour mieux s'intégrer dans le milieu d'accueil. Et en fait, si on impose ça à l'enfant adopté ou à l'immigré, on impose une violence incroyable. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pour vous l'expliquer, je vous donne une petite anecdote, une petite vignette clinique que j'ai eue avec une fille de que j'ai vu à des reprises, entre l'âge de 3 ans, 4 ans, et jusqu'à 5 ans, et puis à l'âge de 9 ans par la suite. Il s'agissait d'une petite fille placée dans une famille d'accueil, qui était justement en rupture avec sa famille d'origine. Et au bout de quelques années, cette famille a décidé de l'adopter. Bref, cette fille, je l'ai vue à cet âge-là, et il se trouve, j'ai toujours un petit coffre que je laisse dans mon cabinet à l'intention des enfants. Et il y a toutes sortes de jouets dans ces coffres. Elle a eu un poney. Et avec une trousse de comment on appelle ça, avec maquillage, pour elle passait son temps à maquiller les poneys, et à la fin de chaque séance, elle voulait partir avec les poneys, en disant c'est son poney. Donc j'ai trouvé avec elle une solution en disant écoute, je te les cache, et comme ça tu peux être sûr qu'aucun autre enfant ne jouera avec ton poney. La semaine prochaine, quand tu viens, tu trouves ton poney. Avec le temps, le poney a été oublié. Et puis, arrivant à la fin de ce travail avec elle, effectivement, le poney a été complètement oublié. Et moi, je pensais que c'était définitivement clos, le chapitre de ce poney chez moi. Bon, 3 ans plus tard, la famille d'accueil me téléphone pour me demander, Monsieur Ahmad, Marie, vais vous revoir parce qu'elle a des questions à vous poser. Je lui ai dit, oui, bien sûr, venez. Marie est venue avec sa mère, et puis je lui ai dit, alors Marie, qu'est-ce qui vous amène? Elle m'a dit, j'ai 3 questions à vous poser, Monsieur Ahmad. Je lui ai dit, ah oui, c'est très bien, allez-y. M'a dit, la première question, je veux savoir pourquoi une maman abandonne son enfant. Deuxièmement, je voudrais savoir qui est la vraie mère. Qui c'est la vraie mère? Troisièmement, je vais demander à mon père de me rendre le poney avec lequel je jouais quand j'étais petite. Et inutile de vous dire que je faisais allusion à ces poneys que je croyais définitivement oublier chez moi. Bon, inutile de vous dire que le père pour cette fille, bien sûr que c'était pas moi, c'était pas son père géniteur, c'était effectivement ce processus de travail dans laquelle cette fille s'est trouvée, et effectivement qui s'est référée à moi, s'appuyait sur moi pour construire quelque chose qui serait une fonction paternelle pour elle et une référence au père pour elle. Donc quand elle m'a demandé, je veux demander à mon père, là j'ai tout à fait compris qu'effectivement une fonction paternelle a été assurée pour elle, et elle peut s'appuyer effectivement à quelque chose qui reste pour elle une valeur de paternité. Inutile de vous dire que je n'ai pas répondu à cette question. Par contre, quand je lui ai dit, je ne sais pas comment répondre à votre question, qui c'est la vraie mère. Mais par contre, j'ai moi-même une question à vous poser, Marie. Elle m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, il y a une poule qui a pondu un œuf, et il y a une poule qui l'a couvée. Qui c'est la vraie mère? Elle a répondu vite, mais c'est celle qui l'a pondu. Je dis, vous voyez, Marie, vous avez trouvé une réponse. Donc, la vraie mère, c'est celle qui a pondu l'œuf. Marie n'était pas contente de sa réponse. Elle m'a dit, non, c'est pas ça. Je dis, quoi? Elle m'a dit, c'est celle qui a couvé l'œuf. Parce que si on ne couvre pas l'œuf, il n'y a pas de poussin. Je dis, tu vois, Marie, toutes les questions, une question n'a pas qu'une seule réponse. Il y a plusieurs réponses à une question. Voilà, c'est une réponse. Et puis, encore une fois, elle n'était pas contente. Elle me dit, en fait, c'est le 2. Voilà, l'une est la condition de l'autre. Vous voyez, quand on pose la question, qu'est-ce qui d'abord, l'œuf ou la peau, vous allez me dire, il n'y a pas de réponse. Si, il y a une réponse, et cette réponse m'a été inspirée par cette fille. Il y en a une, la poule est la condition de l'œuf, et l'œuf est la condition de peau. Et si vous historisez la question, vous allez savoir qu'est-ce qui est d'abord. Si vous mettez aujourd'hui un œuf sous une poule, vous savez que c'était l'œuf d'abord. C'est cet œuf-là qui va donner un poussin. Mais seulement si vous stoppez l'histoire à ce moment-là. Mais si vous ouvrez l'histoire, vous trouvez qu'il n'y a pas de réponse. Il y a un temps ouvert, un temps logique. Et toute réponse à la question de l'origine est en temps logique, en temps ouvert. À l'origine, il y avait quelque chose. On peut le dire. Il y avait Adam, il y avait des crocodiles, il y avait chaque culture a trouvé quelque chose à l'origine. Mais pourquoi la question de l'origine est si importante que ça pour nous, les humains? Il faut qu'il y ait quelque chose à l'origine. Mais c'est quelque chose à l'origine, personne ne peut le connaître. C'est un récit. Autrement dit, pour qu'il y ait une origine, il faut un récit. Un récit, c'est l'origine. Mais quelle est l'origine d'un récit? C'est autre chose. L'origine d'un récit, on retombe aussi effectivement dans l'histoire de qu'est-ce qui d'abord l'œuf ou la poule. Il y a un récit. Si votre enfant vous demande de lui raconter l'histoire de votre famille, vous allez raconter la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, parce que vous avez des souvenirs ou parce qu'on vous a transmis l'histoire, mais après, c'est un récit, une fiction. Autrement dit, ou bien on accepte cette idée, et c'est ça qu'on appelle la castration, toute origine est fictionnelle, ou bien vous voulez absolument que l'origine soit quelque chose, et dans ce cas-là, ou bien vous répondez du point de vue religieux ou du point de vue idéologique. Nous avons connu des gens qui des hommes qui ont posé l'origine biologique comme à l'origine de la race ou à l'origine d'une ethnie ou d'une communauté. Et ça a fait des malheurs. Autrement dit, l'origine est un trou. Et il faut qu'il reste un trou. Qu'est-ce que j'appelle le trou? Une fiction. Le trou n'est qu'une fiction. Et si vous bouchez les trous, par quoi on peut boucher ces trous? On peut mettre Dieu si on veut. Dans ce cas-là, on est religieux. Et on est convaincu qu'à l'origine, il y avait Dieu. Et Dieu qui a créé Adam, et etc. Si je mets l'origine biologique, dans ce cas-là, effectivement, j'ai privilégié le sang. Et vous savez, vous appartenez ou vous appartenez pas, ou bien vous êtes descendant d'un, ou vous avez le même sang, ou vous êtes étranger. Et ça a fonctionné beaucoup dans beaucoup de pays. Et l'Allemagne jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ou bien on est allemand du sang, ou on n'est pas allemand du tout. Chez toute image des gens en Europe, on est européen parce qu'on est on est de sang européen ou pas du tout. Et ainsi de suite. Mais chaque fois qu'on bouche les trous, on ne se rend pas compte qu'on fait surgir les monstres. Les monstres, c'est qui? Les monstres, c'est les fanatismes. Les fanatismes, que ce soit religieux, que ce soit racial, et que ce soit communautaire. Parce qu'on aurait effectivement boucher les trous de telle sorte qu'il n'y a plus aucune possibilité de manœuvre, aucune possibilité de rencontre, aucune possibilité de discussion. Si on est là et on discute ensemble et vous m'entendez, vous êtes d'accord avec moi ou peut-être pas, je ne sais rien, c'est qu'effectivement il y a une rencontre possible. Et cette rencontre est basée sur quoi? Sur le langage. On parle. On parle et quelque chose de notre vérité circule. De ma vérité et de votre vérité. Et dans la mesure où il y a quelque chose de cette vérité qui circule et qui fait qu'on puisse s'entendre à minima, vous comprenez qu'effectivement, il n'y a plus rien qui bouche ces trous et qui nous empêche de nous entendre et de comprendre et de communiquer entre nous. Vous m'entendez? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce qu'effectivement, vous laissez une possibilité, vous laissez une place à ce que j'ai dit, en dehors de toute référence, autre que linguistique, parce que j'essaie de vous parler en français, pour qu'on puisse effectivement échanger quelque chose. Et dans la mesure où on échange quelque chose, vous découvrez que la proximité est là et la distance est là. On est d'accord parce que on parle la même langue, on parle les mêmes discours, on dit des choses, on dit des idées, et autour de ça, on peut être d'accord, on n'est pas d'accord. Pas par rapport à ma référence religieuse ou ma référence culturelle ou ma référence je ne sais pas quoi, c'est par rapport à ce que j'ai dit et par rapport à ce que vous entendez de ce que j'ai dit. C'est ça qui fait le lien social et rien d'autre. Maintenant, quand Harry vient dire qui est la vraie mère, c'est vrai qu'il y a une rupture, comme a commencé par le dire Jean-Jacques, mais il n'y a pas de séparation. Et c'est quelque chose qu'on découvre dans l'adoption. Quand vous entendez les enfants adoptés qui arrivent très très jeunes, même bébés, dans leur famille adoptive, et plus tard, quand ils parlent, ils demandent à leur mère qui c'est ma vraie mère, ou demandent à l'analyste qui c'est ma vraie mère, vous vous demandez pourquoi c'est encore une question. Alors que la vraie mère, normalement, c'est la mère de la réalité. La vraie mère, c'est celle qui est là, c'est celle qui assure une fonction. C'est ça la vraie mère. L'autre, c'est la génétrice, c'est celle qui a mis un enfant au monde. Il faut dire que même, c'est très important, il a pris le risque de mettre un enfant au monde. Il ne l'a pas élevé, il ne l'a pas adopté, mais effectivement, elle lui a donné la chance de naître, la chance ou malchance, je ne sais rien, la chance de naître et de rencontrer un autre couple, une mère et un père, qui veille sur lui, qui l'éduque et qui lui donne l'occasion de grandir et devenir un homme et une femme, un citoyen. Mais pourquoi l'enfant continue à se poser la question « Mais qui est ma mère ?» Vous savez, c'est le même élément qu'on trouve chez les immigrés, les enfants des immigrés. Quand vous leur posez la question « vous venez d'où ?» alors qu'ils sont nés en France, il va vous dire « Je suis algérien, je suis marocain, mais pourquoi vous êtes algérien? Pourquoi vous êtes marocain ?» Vous êtes né en France, vous parlez français, et vous allez à l'école française, vous respirez l'air français, et ainsi de suite. Mais pourquoi vous êtes encore algérien? Oh, pourquoi vous êtes encore Tunisien? Mais vous savez, des réponses comme ça fait, comment dirais-je, le nid du discours extrémiste, en disant, vous voyez, c'est la preuve même qu'ils ne sont pas français. Oh, le discours des parents qui sont déçus de leur adoption, disant, vous voyez, l'adoption, ce n'est pas possible, parce qu'elle est toujours liée à ses parents, à ses parents de naissance. Quand ses enfants disent, mes parents, ma mère, mon père, c'est justement le terme de rupture est terrible, dans ce sens-là, la question de la rupture. Il y a eu rupture, comme je commençais par dire, mais il n'y a pas un travail qui a permis à cet enfant de faire accès avec cette rupture. Je trouve que Marie a trouvé une réponse convenable. Il ne s'agit pas de choisir qui est la vraie mère. Il s'agit de faire avec les éléments de son histoire quand il a dit le 2. Et c'est vrai que le 2, c'est l'une et la condition de l'autre. Sans l'une, il n'y a pas d'autre. Donc, quand il dit le 2, il faut l'accepter dans le sens les vrais et à relativiser dans ce sens-là. Il n'y a pas de vrai qui est relatif dans l'histoire de quelqu'un. C'est vrai qu'il est né d'une autre femme, mais c'est vrai qu'il y a une autre mère qui l'a élevé. C'est vrai dans les deux sens, mais est-ce qu'il y a une vérité meilleure que l'autre ou plus importante que l'autre? Comment accepter l'idée que chacun construit ses fictions comme il peut? Quand j'appelle fiction, je veux dire fiction individuelle. Chacun de nous construit ses fictions individuelles. C'est quoi ces fictions individuelles? C'est ses références. Référence à un pays, référence à une langue, référence à une religion, référence à des parents, et ainsi de suite. On a besoin tous de références pour pouvoir construire nos fictions et ne se tuer quant à ces références, relativiser ces références qui nous servent effectivement des bases, des matériaux pour construire nos fictions. C'est la même chose pour les bébés humains. Il a besoin de quelqu'un qui incarne l'autre pour lui. Et c'est ça, la mère qui incarne l'autre, le grand autre. Comme nous, les psychanalystes, on a tendance à parler des grands autres. Le grand autre, effectivement, il faut l'entendre dans ce que je commençais par dire, c'est trop. Parce que tout ce qu'on sait de ce grand autre, c'est le langage. On en parle. Mais il n'y a rien qui vient effectivement boucher ces trous. Il n'y a rien qui nous dit, le vrai, c'est le vrai de cet autre. C'est le langage, c'est les semblants, en quelque sorte. Voilà, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose, chacun de nous, pourquoi? Pour construire nos fictions et pour nous retrouver en tant que seul, en tant qu'un parmi d'autres. Peu importe dans quelle culture je me trouve, peu importe dans quel lieu je me trouve, j'ai besoin de m'appuyer sur des fictions, sur des repères pour construire des fictions. Et les repères, ça me vient d'où? Ça me vient d'où, les repères? Ça me vient de mes parents, ça me vient de mes grands-parents, ça me vient des discours dans lesquels je suis élevé, les discours qui me portent et les discours que je porte à mon tour. Il me faut ça pour m'en débarrasser par la suite. Et comment je m'en débarrasse? Quand je sais en faire quelque chose de moi-même au service de ma personne, au service de l'homme ou de la femme que je suis, du citoyen, des pères de famille et ainsi de suite, au service de mon appartenance à un groupe ou à deux groupes. Pourquoi pas, comme j'ai dit, pour un enfant adopté. Quand on demande aux enfants d'origine immigrée, choisissez, vous êtes français ou pas en français, c'est exactement ce qu'on demande à un enfant adopté, choisissez ce qui est la vraie mère. Mais quoi que je choisisse, dans ce cas-là, je suis perdant. Autrement dit, on empêche quelqu'un de construire quelque chose par rapport aux repères qui sont les siens. Il faut pouvoir construire quelque chose pour s'en séparer. C'est ça la séparation. Sinon, je suis en rupture. Et je suis ravi de commencer par faire ce joli lapsus quand je dis Libanais. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'impose à nous. Même après 50, 60 ans en France, je suis capable de commencer par faire ce lapsus. Je suis Libanais. Vous voyez, si vous aimez parler Libanais, vous allez dire, vous voyez, vous êtes encore Libanais, mais qu'est-ce que vous faites en France? Et vous avez le droit de me le dire. Vous voyez, et je vous traite pas de raciste, je vous traite de quelqu'un qui aime sa France, qui aime sa culture et qui veut que tout le monde soit à l'image de sa culture, puisqu'on est là en train de manger le pain de français. Au moins qu'elle soit. C'est amusant, il y a une semaine, on était invité à la radio Monte Carlo avec des autres personnes qui sont en France, accueillis en France, qui sont réfugiés, un Syrien et une Soudanaise. Et ils étaient tellement reconnaissants pour la France de les avoir accueillis, et ils ont dit comment exprimer notre fierté d'être en France, notre reconnaissance pour la France, comment être fidèle à la France. Et vous voyez, c'est quelque chose d'absolument terrible. Comment rester fidèle à la France? Comment être reconnaissant pour la France? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui peut me dire en faisant cela, je suis vraiment reconnaissant pour la France? Comment je peux le savoir? J'ai dit, écoutez, vous êtes en France maintenant, tout ce que vous pouvez faire pour la France, c'est essayer de vous insérer, essayer de vous trouver un travail, essayer de compter sur vous-même, essayer effectivement, quand vous serez père de famille, de les élever dans l'amour de ce pays dans lequel vous êtes. Mais n'oubliez pas, non, pour autant d'où vous venez. Vous savez que vous n'allez pas oublier d'où vous venez. Apprenez à vivre votre vie, pleinement votre vie. Voilà ce qu'on peut faire pour être reconnaissant pour la France. C'est exactement comme on est reconnaissant pour les parents. Qu'est-ce qu'on demande? Comment rendre à mes parents ce que j'ai reçu d'eux? Quelle est la nature de cette dette que je porte à l'égard de mes parents? Il y a deux sortes de dettes. Il y a cette dette imaginaire, et il y a une autre dette qui est la dette symbolique. La dette imaginaire, quoi que vous donniez, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais tout à fait ça. Qu'est-ce qu'un père ou une mère qui dit à son enfant, avec tout ce qu'on avait fait pour toi, en termes de reproche, c'est tout ce qu'on a avec tout ce qu'on a fait pour toi? Oui, vous avez fait le nécessaire pour élever votre enfant. Vous avez fait votre devoir de parent. Ce n'était pas la charité. Ce n'était pas la générosité. Un homme et une femme ont un devoir quand ils mettent un enfant au monde. Et ce devoir, c'est effectivement d'élever l'enfant dans les meilleures conditions. Quand on peut. Et ça, ce n'est pas une dette. On ne peut pas dire ça, c'est l'enfant ne devrait pas effectivement se sentir en dette à l'égard de ses parents parce que ses parents se sont veillés sur lui, l'ont éduqué et ainsi de suite. Ils ont fait leur devoir à l'égard de leur enfant. Mais maintenant, quels sont les devoirs de l'enfant à l'égard de ses parents? Il y a des pays où la sécurité sociale n'existe pas, etc. Les enfants gardent leurs parents chez eux. elle dépense pour ses parents, elle veille sur ses parents, etc. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de lieu pour le vieux, que, sauf au foyer paternel. Dans ce cas-là, vraiment, il y a une obligation à l'égard de ses parents. Mais la dette imaginaire, quand les parents disent avec tout ce qu'on a fait pour toi, mais qu'est-ce que je vais donner en échange de cela? Qu'est-ce que vous pouvez donner à vos parents pour leur dire que vous les aimez et que vous êtes reconnaissants et vous payez la dette? Vous avez une idée? C'est absolument difficile de répondre à cette question. Parce qu'on ne sait pas quoi donner en échange. S'il faut donner quelque chose de matériel, s'il faut donner quelque chose. Si cette dette, la dette symbolique, se paye à l'égard de la vie. Ce que mes parents ont fait pour moi, je l'ai fait auprès de mes enfants. Mais je n'oublie pas mes parents pour autant. C'est ça la dette symbolique, c'est la dette à l'égard de la vie, à l'égard de ces générations qui vont se succéder. C'est ça la dette, dans ce sens symbolique. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie mes parents. C'est le dilemme dans lequel les enfants d'immigrés, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que la dette est double pour eux. Une dette à l'égard des pays d'origine et une dette à l'égard des pays d'accueil, le pays de naissance, le pays dans lequel ils vivent. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup. Comme une reconnaissance des dettes à l'égard des pays d'origine qui continuent à se dire algériens, qui se continuent à dire. Mais quand ils sont en Algérie ou quand ils sont au Maroc, est-ce que vous croyez qu'ils se sentent algériens ou marocains? En tout cas, ils sont traités de français. Et ça, c'est une difficulté de base. Quand la France veut rejeter un enfant d'origine algérienne, qu'est-ce qu'il répond l'Algérie? Mais c'est un Français, il est né en France, il a été éduqué en France, démerdez-vous avec. Pourquoi vous le comptez encore comme Algérien? Alors que l'enfant lui-même se compte comme Algérien. C'est pour cela vraiment la question de l'origine. C'est une question qui reste avec nous, qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Et puis, il y a quelque chose qui nous rappelle de l'origine, quoi qu'on fasse. Moi, par exemple, il suffit que je dise une phrase en français pour qu'on me demande tout de suite « Oh, d'où vous venez avec votre joli accent ?» Si je dis « Je suis français », on va dire, oui, mais d'où vous venez? Il faut que je dise que je suis Libanais. Ah, dans ce cas-là, tout rentre en ordre. Ah, on sait maintenant que j'ai un accent, je suis Libanais. Et bon, français aussi. Il y a quelque chose qui nous rappelle toujours l'origine. Là, notre interlocuteur nous renvoie à notre origine. Mais il y a quelque chose d'encore plus inconscient. Je vous donne un petit exemple. Si je suis né au Liban, j'ai commencé l'école au Liban, et si je comptais en arabe, même après 50 ans en France, quand je compte en arabe. C'est plus fort que moi. Ça. Il y a des expressions qui m'échappent après 50 ans. Par exemple, je cogne le pied contre le pied de la table. Je lis la table avec quoi? En arabe. Et une famille française qui m'invite, qui m'offre un repas, et puis commence à manger, et tout à coup, une nostalgie de la cuisine maternelle me revient, et je commence à, manger, à parler de ce qu'on mange au Liban. Vous voyez, il y a quelque chose de l'origine qui refait surface quoi que vous pensiez. Et c'est à votre insu. Et c'est quelque chose avec lequel qui vous accompagne jusqu'au bout. Un autre exemple pour vous dire le nombre d'émigrés en France, d'origine immigrée, qui vivent de quoi? De la cuisine maternelle, des restaurants. Vous imaginez le nombre de restaurants qu'on trouve en France ou à travers le monde? Les Indiens qui font la cuisine indienne, les Chinois font la cuisine chinoise, les Libanais, les Syriens, etc., etc. Comme quoi, même quand je quitte mon pays, quand je vais m'installer ailleurs, et puis je transporte quelque chose de ma culture, non seulement je les transporte, mais je les commercialise et ça me fait vivre. Vous vous rendez compte, le nombre, statistiquement, si vous comptez le nombre de gens qui effectivement vivent de leur cuisine maternelle, ça se compte par des centaines de milliers, même plus. Promenez-vous à Paris un petit peu et vous allez voir. Promenez-vous en Allemagne, à Berlin, et vous allez voir le nombre de restaurants qui sont tenus par des ressortissants des autres pays. Mais ils sont qui? Sont-ils allemands? Sont-ils chinois? Sont-ils libanais? Voilà des questions effectivement auxquelles on ne peut pas répondre. C'est pour cela cette question qui a été une question terrible pendant les élections en France, pas seulement en France, ailleurs, autour de l'intégration. C'est vraiment un discours terrible. Parce que ce discours qui met les enfants des immigrés et les immigrés eux-mêmes dans l'impossibilité de trouver une réponse. D'ailleurs, le pays est dans l'impossibilité de trouver une réponse. Nous avons connu des ruptures terribles par rapport aux langues régionales en France. Souvenez-vous quand on a interdit les langues régionales, les Corses, les Bretons, tout ça. Effectivement, on a fait de toute cette population de Français parlant le français et essayant de combattre la langue régionale, les langues régionales. Ah, parce que ce n'était pas français. Pour constituer la République, pour constituer la nation, il faut figer les repères. Et la langue est un repère principal pour la constitution d'une nation. Et alors, c'est pour cela qu'il fallait chasser les langues régionales. Mais qu'est-ce qui est arrivé quelques générations plus tard? Les langues régionales reviennent de plus en plus fort. On enseigne les langues régionales partout. Mais comment se fait-il qu'elles ne sont pas mortes, ces langues? Pourquoi elles vivotaient, ces langues, sous les cendres tout ce temps? C'est la même chose dans les pays communistes. Ils ont combattu la religion. Il a suffi que les pays communistes tombent pour voir renaître comme les phénix, la religion. Et ce n'est pas n'importe quelle religion, c'est une religion très très puissante, très forte, et une foi extraordinaire. Mais comment se fait-il que ce n'est pas mort? Vous voyez, il faut accepter cette idée. Pour définir une identité d'appartenance, on a besoin de repères. Et ces repères, on ne peut pas les combattre. On ne peut pas les rejeter si facilement que ça. Depuis Hérodote, nous savons quels sont ces repères. La langue, la religion, la culture, les mœurs, on appelle ça les mœurs. Et puis, les affinités ont rapport avec tous ces repères. C'est ça qui fait nation. Et pour définir la nation, pour définir les frontières en Europe, combien ça nous a coûté pour tracer les frontières géographiques de la France? Combien ça nous a coûté? Des millions et des millions de morts. Pour tracer les frontières géographiques de l'Allemagne, des autres pays européens, ils se sont battus pendant des centaines et des centaines d'années pour tracer les frontières. Mais une fois les frontières extérieures se sont tracées, on se retrouve avec quoi? Avec les frontières internes. Les socialistes, les communistes, la droite, la gauche, il y a toujours effectivement ces frontières qui s'insèrent pour séparer effectivement. C'est pour cela qu'une guerre, ça arrange les choses. Ça arrange les choses dans le sens qu'il repousse les frontières internes vers l'extérieur. Il y a des pays qui ne peuvent vivre que de la guerre. C'est la raison de son existence, la raison d'être. Parce qu'effectivement, sans la guerre avec l'extérieur, ils vont se retrouver effectivement en conflit communautaire, ou en conflit religieux, ou en conflit, etc. Tant qu'il y a une guerre qui nous arrange, ça va. Mais à condition, ça fonctionne à condition de relativiser ces repères. Comme j'ai commencé par dire. Autrement dit, avoir des repères pour son passé. Savoir que je suis français, mais je n'ai pas besoin de sacraliser la langue, je n'ai pas besoin de sacraliser mes repères pour. Mais tout à coup, il y a des conditions historiques, il y a des conditions économiques qui font que ces repères surgissent avec une rigidité incroyable. D'où la poussée de nos jours de ce qu'on appelle le populisme et le radicalisme. Le populisme, c'est une poussée, radicalisation de nos repères. On fait partie de ces repères ou pas. Point, c'est tout. On ne rigole pas avec. On mange le cochon ou pas. On ne rigole pas avec. Et ainsi de suite. Et une chose est sûre, ces repères, on les oublie quand économiquement ça marche. Quand l'économie marche, tout marche. On oublie les repères. Mais dès qu'il y a des difficultés économiques, ça ressurgit. On ne supporte plus ceux qui viennent partager notre gâteau. Notre gâteau n'est plus partageable. On veut notre part de gâteau et pas les autres. Et ainsi de suite. Quand vous allez en Allemagne, je vous dis, parce que je vais souvent en Allemagne, il y a les 2 millions de Syriens, 1 million de 200 000, je ne sais pas combien de Syriens, ils les ont intégrés, parce qu'il y a possibilité pour eux de trouver des. Il y a une possibilité pour eux de trouver un travail et participer à la richesse de la nation. Dans ce cas-là, ils sont les bienvenus. Mais maintenant, encore, on cherche encore de main-d'œuvre. Il faut de main-d'œuvre parce que l'économie marche. Et ça ne dérange pas, on cherche. Je viens raconter à mes collègues, il y a mon voisin dans le même où j'habite, est un ingénieur qui travaille dans une entreprise. L'entreprise leur dit, si vous trouvez un ingénieur qui vient travailler chez nous, vous avez une prime de 10 000 euros. Vous vous rendez compte, l'urgence de trouver des main-d'œuvre, des spécialistes, tout ça. Et puis, peut-être je vais terminer là-dessus, il y a toutes sortes de migrations. Il y a les migrations économiques, où on sait qu'on va dans un pays pour faire un peu de sous, et pour revenir au pays, etc. C'est ce qu'on appelle aussi les apatriés, c'est-à-dire les occidentaux, les cerveaux qui vont travailler dans les autres pays. Je ne disais pas nous sommes immigrés, je disais apatriés.
Expatriés.
Qu'est-ce qu'on dit?
Expatriés.
Oui, pardon, expatriés. Nous sommes expatriés. Mais ça veut dire quoi, expatriés? C'est drôle. Pourquoi on est expatriés et pas immigrés? Il y a même une hiérarchie dans l'immigration. Il y a ceux qui sont expatriés, parce que c'est les grands qui vont chez les petits. Et il y a les petits qui vont chez les grands, sont des immigrés. Quand j'étais dans les pays du Golfe, parce que ça m'arrive d'aller dans les pays du Golfe, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Français, d'Anglais, ils sont... Par exemple, un pays comme le Qatar, 80% de la population... 80% de la population au Qatar sont immigrés. 80%. Kuwait, la même chose. L'Arabie Saoudite, la même chose. Oman, la même chose. Mais pourquoi les gens, un Pakistanais ou un Indien, c'est un immigré. En français, c'est un expatrié. Mais quand vous trouvez les Français et l'Indien sont ingénieurs dans les mêmes entreprises, le Français est expatrié et l'Indien est immigré. C'est comme ça. Ça, c'est de ce que je vois. Vous voyez que c'est cette hiérarchie qui s'impose. Il y a des Français qui sont là depuis des dizaines d'années en disant, mais nous sommes là, mais on va revenir au pays. Mais vous êtes exactement en train de dire ce qu'il dit là, je reviens en France. Je vais revenir au pays. Seulement, c'est la réalité du monde et tous les signes qu'on voit de nos jours nous annoncent que le pire est à venir. Avec les changements climatiques, avec les tensions, avec les changements démographiques, avec le vieillissement de la population, avec le manque d'eau, avec les crises économiques de plus en plus graves, avec les guerres actuelles. Pour moi, le pire est à venir. Mais maintenant, comment on oublie l'échelle individuelle, l'échelle étatique ou nationale, pour regarder les choses sur le plan global, c'est-à-dire comment notre terre devient un village et comment sauver notre terre, comment sauver notre village. Quoi qu'on fasse, notre devenir tous, notre avenir tous est commun. Comment maintenant envisager l'avenir de cette terre et d'arrêter de regarder les choses à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale ou à l'échelle communautaire. Nous n'échappons pas à ce qui est en train de venir. Que ce soit les montées des eaux, que ce soit les désertifications, que ce soit. On dit ça depuis longtemps, mais maintenant ça devient de plus en plus grave. 400 millions de personnes au Moyen-Orient vont bientôt connaître la crise, un problème avec l'eau, durant plutôt. Une civilisation vieille comme de 6000 ans, ce qu'on appelle la région entre les rivières, l'Euphrate et l'Orient, qui est l'Irak actuel. L'Euphrate et l'Orient, il n'y a plus une seule goutte d'eau. Alors que l'Euphrate et l'Orient ont construit une civilisation vieille de 6000 ans. Il a suffi de 20 ans, 30 ans, pour casser cette civilisation de 6000 ans. Merci les Américains aussi qui ont fait le nécessaire pour casser les rangs. Pour quelle raison? Allez demander aux Américains. Vous voyez, je pense que je parle toujours de l'hypothèse que l'enfant est international. L'enfant est international. Pourquoi l'enfant est international? Parce que l'enfant est l'enfant de celui qui l'élève, ou de celle qui l'élève, ou de celle qui l'élève. L'enfant parle la langue de ceux qui l'élèvent. L'enfant, effectivement, est l'hypothèse de celui qui l'élève. Et cela fait un enfant pénétrer là où on veut. Il peut être l'enfant de celui ou de celle qui l'élève et qui lui donne l'occasion de grandir et de devenir. Autrement dit, l'enfant est toujours l'hypothèse de celui qui se trouve. Que ce soit les parents adoptifs, que ce soit la famille d'accueil, que ce soit le foyer, que ce soit tout ça, l'enfant parlera la langue de ceux qui s'occupent de lui, de ceux qui l'élèvent. Mais ce que j'ai dit par rapport à l'enfant, peut-être un jour ça va s'appliquer à l'homme tout court, quand les conditions vont devenir difficiles. Encore plus difficile. On va dire peut-être que l'homme est l'enfant du lieu là où on trouve le moyen de servir.
C'est une bonne idée.
Et ça va, on n'échappera pas à cette réalité. Même si je m'appelle Domour, pour ne pas dire le vrai nom, si je m'appelle Domour, je suis obligé à un moment ou à un autre d'accepter cette réalité que l'homme est l'enfant de lui là où il peut servir. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci à Nazir pour cette conférence. C'est toujours très plaisant de t'entendre avec l'accent aussi. Alors, bon, tu as dit tellement de choses que ça pourrait nous amener sur un tas de. Un tas de chemins, un tas de remarques. Peut-être cette question de l'imaginaire, de la fiction que tu as abordée, hein, que, en quelque sorte, qu'un sujet humain, pour qu'il se constitue, il y a cette nécessité d'une fiction.
Oui.
Une fiction qui, par sa nature même de fiction, ce n'est pas une erreur, mais c'est un discours qui tourne autour effectivement d'une énigme, l'énigme par exemple de l'origine.
Oui.
Et qu'à partir du moment où, comme tu le disais, on bouche ce trou de l'énigme, on peut s'attendre au pire. C'est bien ça l'erreur, en tout cas, de toutes les xénophobies, c'est-à-dire, au lieu de faire jouer ce lieu d'énigme de l'autre, qu'est-ce que c'est que l'autre, qu'est-ce que c'est que l'altérité, que suis-je par rapport à cette dimension autre, si on y met effectivement, dans ce lieu-là, l'étranger, on est sûr, on sait où ça va. Alors, la question de l'adoption, et de l'imaginaire de l'adoption, et cette petite fille qui te posait cette question tout à fait fondamentale, les enfants, évidemment, le chiffre vous posait des questions fondamentales. Je me souviens d'une petite fille que j'avais été amenée à recevoir dans le cadre d'une activité dans un CNDP. C'était une petite fille adoptée qui venait d'un pays sud-américain on avait cru bon, effectivement, les pires choses, et d'après la description qu'on avait donnée de sa petite enfance, elle avait certainement souffert d'une dépression majeure, analytique, au bord de d'un autisme. Et son arrivée en France, son accueil dans cette famille absolument extrêmement disponible, extrêmement ouverte à cet enfant, et prête à être avec elle, à l'accompagner dans cette nouvelle phase de son destin, avec beaucoup de mal. Elle était fuyante, elle avait peur, elle refusait de manger, une adoption difficile à mettre en place. Et au fur et à mesure, je recevais les parents, j'essayais de les accompagner surtout dans ces difficultés. Je recevais la petite aussi, qui était très fuyante, mais enfin tout de même, on arrivait un petit peu à s'accommoder, mais quand même, c'était peu. Et puis, tout le monde était un peu dans l'attente quand même que les choses évoluent, ça n'évoluait pas beaucoup. C'est une petite fille qui venait de ce lieu évidemment sordide, avec de misère, qu'on peut trouver en Amérique du Sud. Et un jour, les parents me disent « Ah, on est très inquiets, on est très très inquiets, parce que elle nous dit qu'elle a peur du loup. » Et alors là, je dis « Mais formidable !» trouvé ça formidable parce que, d'une certaine manière, sa peur, son rapport à l'autre, son rapport à sa propre, ses propres angoisses, ça venait prendre en quelque sorte, ça venait emprunter le discours des peurs des enfants d'ici. C'est-à-dire qu'elle était prononcée, oui, en quelque sorte, à ce discours, à ce récit, à cet imaginaire, qui fait que un enfant, par ici, a peur de loup, quand il, enfin, en tout cas, sur sa manière de dire quelque chose, de son rapport justement avec cette énigme de l'étranger. Et cette petite avait pu se glisser là. Donc il y faut une sorte d'adhésion. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Là, il se trouve que cette petite avait dit oui, en quelque sorte, en s'assimilant le récit sur la peur, sur l'inquiétude, sur l'angoisse, donc sur l'objet qui échappe. Voilà, vous avez réussi à s'insérer là-dedans. Donc voilà, c'est. Ça revient tout de même à. Pour cet enfant-là, ou comme pour tous les enfants du monde, qu'ils soient adoptés ou pas, comment faire effectivement avec cette question de l'énigme de l'origine, comme tu disais. Et quand les choses semblent plus évidentes possibles, avec un papa, maman, une là, etc., ben, il n'empêche que c'est cette même question qu'on s'en pose. Donc, voilà. Donc, je suis d'accord avec toi que, comme tu disais, l'enfant est international, hein, c'est-à-dire que comment ça s'articule avec l'hypothèse donc de celui qui s'occupe, qui l'élève, qui a la préoccupation de ce petit homme.
Écoute, Lou, c'est intéressant. C'est une phobie commune chez beaucoup d'enfants. À un certain moment, j'ai peur de loup. Ma petite fille, là, dernièrement, qui a aussi. Ma petite fille. C'est un passage obligé.
Mais assez loin le micro. Parce
cette phobie du loup, c'est un passage obligé. Mais. Je me souviens de la première fois que j'ai parlé avec Dotto autour de cette question, pourquoi cet espoir du loup. Et Dotto m'a dit, vous avez tort d'entendre l'animal. Loup peut signifier l'animal, mais loup, c'est une question. Vous oubliez la question. Elle apostrophe. Et loup, c'est ça le passage obligé, c'est-à-dire cette question, comme tu l'as dit par rapport aux questions de l'origine, et surtout ce passage par la phobie et l'angoisse de la nuit, c'est la découverte de la solitude, l'absence de l'autre. C'est-à-dire tout à coup, chez l'enfant, celle qui incarnait l'autre ne l'incarne plus. Pourquoi ? Parce que l'enfant découvre la solitude, découvre sa finitude, découvre l'insuffisance de son entourage. Autrement dit, découvre les trous. Et loup, c'est effectivement ce qui vient symboliser la question, ce qui vient signifier la question de, pour l'enfant, la question de ses trous. Mais maintenant, qui va m'assurer, qui va me garantir, qui va me protéger, là où ma mère, toute puissante, d'ordre maternel incarné par la mère, me protéger. Maintenant, qui sait? Autrement dit, la question, où est, en quelque sorte, où est parti cet autre qui était, qui m'a rassuré? Maintenant, qui sait qui me rassure à la place? Voilà le passage nécessaire par cette angoisse sur les enfants. Quand ils disent, de nous, de nous, je peur de nous. Et l'autre fois, c'était amusant. Ma petite fille, elle dit à 3 ans, tout à coup, elle découvre elle aussi la peur du loup. Parmi les loups, les loups. Et moi, je lui ai dit, pampan, les loups. Et elle éclate de rire. Et chaque fois, elle est allée chez elle. Et puis, quand elle avait peur de nous, je vais papy. Pourquoi? Parce que mon papy a donné la fessée. En disant pampan, les loups, à ses yeux, je donnais la fessée au loup. Et puis, elle me réclamait. Et c'est justement ça. Autrement dit, les parents qui échouent de porter l'angoisse de l'enfant sur eux, d'une manière ou d'une autre, ils vont forcément laisser l'enfant avec cette angoisse, sans soutien. Il faut savoir aussi porter l'angoisse de l'enfant, de ne pas les laisser tout seul. Et mais comment on peut porter l'angoisse de l'enfant pour ne pas les laisser seul? En faisant de cette angoisse la question et en construisant un récit. Le récit, c'est le récit qui vient se destituer de nous.
Bien, qui voudrait prendre la parole?
Moi, j'ai associé, quand j'ai entendu la fiction, cette place du récit, avec ce livre qui m'a vraiment bouleversé en un moment, de Georges Sandin, L'écriture ou la vie, et où il lui était possible de choisir la vie parce qu'il avait accepté d'en faire un récit, une fiction de la mort pour aller vers la vie. Alors ça, c'est un point qui me semble vraiment très très important. Et puis, alors attendez, si j'avais associé avec autre chose, et ça m'échappe. Oui, il me semble que c'est dans un de vos autres livres sur la notion où vous mettiez bien en valeur cette question que aussi bien les parents, le père et la mère, ou l'enfant ont à adopter. Voilà. Et là, j'ai fait un lien avec ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire qu'il me semble que cet acte d'adoption, c'est, je le qualifierais comme un acte de béyaboug, de redire oui à la vie. Voilà. C'est ce qui m'est venu au moment. Oui, c'est ce que j'aime dire aussi. C'est-à-dire que, aussi bien pour l'enfant adoptif que pour l'immigré, l'adoption doit se faire dans les deux sens. Et le pays ou la famille adoptive l'adopte, mais ça ne peut pas se faire s'il ne les adopte pas.
Oui, exactement. Pour moi, ce que je reproche au gouvernement, au divers gouvernements en France, c'est que je reproche au divers gouvernements en France, face au discours extrémiste, qu'il n'y a pas de présidents qui ont pris des positions claires, que c'est des Français et nous défendrons la population française, peu importe l'origine. C'est-à-dire prendre une position claire, nette, sans ambiguïté. Il y a des moments où le gouvernant a à prendre une position. Parce qu'il y va du salut de la nation. Et il ne faut pas utiliser les arguments seulement dans une visée politique, électoraliste. Quand les présidents et les responsables politiques ne prennent une position qui est dans une visée électoraliste, c'est la nation qui souffre. Il faut que le père soit le père, il faut que les gouvernants soient les gouvernants. Quand le père et les gouvernants sont défaillants, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. Et ça, c'est quelque chose qui incombe. C'est le devoir. Et ce n'est pas un choix, c'est le devoir de ceux qui nous gouvernent. De mettre la nation en avant, pas derrière. Il faut effectivement un discours responsable. Et depuis plusieurs présidents, plusieurs qui ont utilisé effectivement des discours arrivistes comme les pires des politiciens qu'on voit actuellement en France. Et ce n'est pas étonnant que c'est la nation française qui souffre. Et que ceux qui sont d'origine étrangère se sentent étrangers et se sentent rejetés.
Et ça porte au nationalisme.
Exactement. C'est métaphoriquement, c'est le père de famille. Père de famille, un mot est toujours supposé mettre en avant l'intérêt de la famille, l'intégrité de la famille, l'intégrité morale, l'intégrité physique, l'intégrité. Mais s'il n'y a plus personne qui défend la famille et son intégrité, il n'y a rien de pire pour une famille, pour un enfant, que d'avoir un père pervers, par exemple. Comment on peut faire un enfant quand un père pervers met en cause tout ce qui est effectivement repère symbolique pour un enfant? Qu'est-ce qu'il fait pour une famille à ce moment-là? Imaginons-vous qu'un président soit pervers ou les hommes politiques autour soient de cet acabit-là. Qu'est-ce qui devient la nation?
Ça renvoie tout de même à la structure traditionnelle de la famille.
passer, les choses changent, hein, et que il y a effectivement des modalités nouvelles, variées, changeantes, instables, aussi, de faire qu'il y ait des êtres qui vivent ensemble, qui élèvent des enfants, voilà, hein, qui procréent aussi par des moyens très variés. Et, voilà, donc tu développes un peu de toutes ces questions, hein, dans ton ouvrage. Hein, j'ai trouvé ça tout à fait précieux, hein, que tu puisses le faire, parce que ça nous sort aussi effectivement des schémas un petit peu classiques. Et là, par exemple, quand tu fais référence au père, hein, de toute évidence, le père qui avait cette charge traditionnellement, une fonction séparatrice, une fonction symbolique, une fonction qui pouvait situer le sujet effectivement dans autre chose que d'une relation d'immédiateté à la mère. Je veux dire, ce schéma-là, qui est le schéma classique, les lignes en quelque sorte se trouvent changées. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être en dire là, si tu reviens?
Si, j'ai quelque chose à dire. Écoutez, permettez-moi de vous conseiller la Bible. C'est l'histoire d'un enfant qui raconte l'histoire de son village, un village où les hommes sont partis. Et il ne reste plus que les femmes et les enfants. Au Liban, il y a plusieurs villages comme ça.
On n'a pas bien compris, je trouve, là, ce que tu veux dire.
Au Liban, il y a dans mon roman La Vie Bleue, c'est l'histoire d'un enfant.
Ah, c'est dans ton roman, là.
Oui, hein, que tu l'histoire d'un roman d'un village où tous les hommes sont partis pour faire fortune à l'étranger, laissant les femmes et les enfants. Comment les femmes et les enfants vont se vivre et comment. Mais qui c'est qui va se substituer au père pour les enfants? C'est le hasard d'une rencontre entre cet enfant et un couple d'homosexuels qui, objectivement, ça a existé à Beyrouth dans les années 50. Et c'est une rencontre par hasard, parce que dans la bécale, il y avait tous les chasseurs qui venaient chasser dans la bécale, et cet enfant a rencontré ces couples au cours d'une partie de chasse, parce que cet enfant a indiqué des endroits aux chasseurs. Et voilà comment une histoire a commencé entre un couple homosexuel et cet enfant, où l'enfant est piégé, et le couple est piégé, il y a eu un processus d'adoption sans se rendre compte. L'enfant s'est imposé à ses couples, et ses couples s'est imposé à son enfant. Non pas parce qu'il voulait, parce qu'il s'est opéré à leur insu. Et là, ce n'est pas parce que je suis un homme, et je dis à un enfant, je suis ton père, que je suis le père. Il y a quelque chose qui opère à notre insu et qui donne à la place de cet homme ou à la place de cette femme cette dimension symbolique qui fait de cet homme ou de cette femme, qui construit entre cet homme et cette femme cette relation particulière qui fait filiation. Vous savez, c'est pour cela que Lacan dit père, mère, c'est des signifiants quelconques. Mais papa et maman, c'est des signifiants forts dans le sens, effectivement, c'est les particuliers de ce qui c'est nous, c'est l'intime de ce qui c'est nous entre l'enfant et les parents, qui fait qu'il donne à cette femme ou qui donne à cet homme ces statuts particuliers de ma maman ou de mon papa ou de mon enfant. C'est une construction qui s'est faite à l'insu. Vous savez, il y a beaucoup. S'il y a adoption, c'est parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à adopter leurs enfants, qui n'arrivent pas à être le père ou la mère de cet enfant. Il y a même des parents qui élèvent leurs enfants qui n'ont jamais réussi à adopter leurs enfants, qui élèvent les enfants dans la haine, dans la violence. Ça, on les voit. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui veut dire ça fait de cet homme qui occupe une fonction auprès de moi, mon père. Qu'elle soit le père génétique ou pas. On remarque ça chez les enfants dans les pouponnières. Vous savez, dans les pouponnières, quand l'enfant, les bébés tout petits, on nomme pour chaque bébé ce qu'on appelle les maternantes. Et vous pouvez être sûr, beaucoup de ces bébés finissent par élire leur propre maternante. Et pas nécessairement celle qu'on a nommée à cette fonction. Parce que quelque chose de cette maternante lui échappe, que ce soit sa façon d'être, sa façon de parler, sa présence, sa disponibilité, sa capacité de parler, tout ça vont lui donner une place particulière pour l'enfant, une place singulière pour l'enfant, et qui fait effectivement cette. Il peut appeler sa maman tournante. C'est-à-dire celle même qu'on a, officiellement qu'on n'a pas nommée à cette fonction, assure cette fonction. C'est ça une fonction maternelle. C'est ça une fonction paternelle. Et on n'a pas besoin d'être le père génétique ou la mère génétique. On peut assurer. Et c'est pour cela. Je postule que l'enfant est international. Parce que l'enfant aussi adopte. C'est ça l'adoption. Il faut effectivement l'adoption par trois générations d'enfants, les parents et les grands-parents. Nous avons, moi je connais des adoptions où l'enfant n'a jamais adopté ses parents adoptifs. Jamais. Il y a un enfant qui me dit, après des années dans sa famille adoptive, « Mais moi, mes parents, c'est ma famille d'accueil. Pourquoi on m'a enlevé de ma famille d'accueil ?» Il n'a jamais oublié sa famille d'accueil. Alors qu'officiellement, ce n'était pas les parents. Mais ce n'est pas l'officiel qui fait les parents. C'est ce qui se passe. Et souvent, à notre insu, les transferts, vous, chez les psychanalystes, vous faites rien. Ça se passe à votre insu, les transferts. C'est pas parce que vous faites quelque chose qu'il y a transfert. Et dans les liens filiales ou dans le parental, des parentalités, c'est aussi quelque chose qui passe à notre insu. Le père éducateur n'a jamais été père. Le père, quand vous voyez les parents, vous dites, arrête, fais ici, fais cela, arrête. Ça, tous les thérapeutes le savent. Quand le père est là, il est tout le temps en train de donner. Regarde le monsieur quand il te parle, arrête de bouger les jambes, arrête de tout ça. C'est pas. Il assure pas une fonction paternelle, il assure une fonction éducative. Ça ne fait pas père et fils, ça fait une haine mutuelle. Et la haine en famille, c'est quelque chose, c'est une constante, vous le savez tous. Je ne sais pas, j'ai répondu à ta question.
Tu as répondu quelque chose.
À la question, je ne sais pas. Qui souhaiterait
encore. Poser encore quelques questions.
Il n'y a pas de mauvaise question.
Ceux qui ne posent pas de questions auront zéro ces jours.
C'est terrible, mais ça veut dire l'histoire vraie. C'est-à-dire que j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, et il y a une petite jeune fille qui a 20 quelques années aujourd'hui, que j'ai accepté de voir, et qui m'a dit qu'elle ne pouvait absolument plus pas entreprendre un autre travail avec un autre psy, parce qu'elle ne m'avait jamais oublié. Alors, c'est vrai que ça me touche beaucoup, ça me travaille aussi, la preuve, c'est que ça ressort. Alors que ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venue voir tous. Donc si vous voulez m'aider, je viens.
Et vous savez, ça fait partie aussi de notre travail des psychanalystes d'aider nos patients à se séparer de nous. C'est-à-dire comment transformer cette demande d'amour en quelque chose d'autre. C'est le travail en lui-même. Peut-être cette patiente, c'est quelqu'un qui n'a pas fini son travail. Il est parti, il y a eu rupture mais pas séparation. En quelque sorte. Vous étiez toujours là, les transferts étaient toujours là, la demande est toujours la même. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas aller chez quelqu'un d'autre. Elle n'a pas eu une rencontre avec quelqu'un d'autre pour susciter une autre, comment dirais-je, relancer les transferts avec quelqu'un d'autre. Elle était restée figée dans ce qui était construit avec vous, raconter avec vous, travailler avec vous, et ainsi de suite. Et ça, on peut les trouver tous. Je me souviens d'une discussion avec Safon, qui m'a dit les dangers avec les psychanalystes, c'est ceux qui maintiennent la demande d'amour à leur égard. Ceux qui maintiennent la demande d'amour à leur égard. Et qui continuent un travail analytique interminable avec leurs patients. Et ça, on a dit, là, on n'est plus dans la psychanalyse, on est dans l'adoration. On peut transformer la psychanalyse en église. C'est vraiment, ça fait clair là-dessus, en disant aussi, il y a un moment, ça fait partie de ce travail analytique d'aider les patients à transformer la demande d'amour en quelque chose d'autre, y compris le travail. Mettre quelqu'un au travail, par exemple. C'est aussi l'amour de transfert qui se transforme en ce qu'on appelle le transfert de travail. Pendant qu'on était en train de manger ensemble à midi, Dolto m'a dit clairement que les séances courtes chez Lacan étaient adressées aux analystes. Pour maintenir ce qu'elle-même appelait les transferts de travail. Ceux qui n'étaient pas analystes n'étaient pas soumis aux sciences courtes. Lacan utilisait ça avec ses analysants pour maintenir cette tension qui leur permet de se mettre tout le temps au travail. Mais pas seulement ça. Nous savons que aussi, quelqu'un d'autre l'a dit dernièrement, Lacan utilisait la rivalité entre les analystes, ses analysants, pour maintenir effectivement son association, pour permettre à son association de survivre. C'est-à-dire il a utilisé la rivalité, il a utilisé les transferts au service de... C'est-à-dire dresser les analystes les uns contre les autres, plutôt contre sa personne, en quelque sorte. Lacan l'a fait. Mais d'autres l'ont fait aussi. Ça aussi, ça fait partie de cette demande d'amour qu'on entretient en permanence vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis du maître. Le maître peut utiliser cet amour, effectivement, pour susciter la rivalité et sauver sa tête. Et puis, je suis aimé du maître, chacun à son tour. L'un aimé, l'autre banni, et ainsi de suite.
Donc la métaphore de la poule et de l'œuf vaut aussi pour l'analysant et l'analyste.
Absolument.
Oui, à propos de la question routière que chez nous nous le père, il y a des airs culturels, enfin il y a forcément toujours un tiers qui vient empêcher que l'enfant et la mère restent dans cette proximité mortifère. Alors quand je travaillais aux Antilles, et c'est une question que nous avons évidemment travaillé avec Jeanne Victor, le tiers c'est la mère de la mère, c'est la grand-mère maternelle. Généralement, les pères, qui ne sont pas uniquement forcément des géniteurs, mais les pères ne vivent pas chez la femme avec qui ils ont des enfants, ils vivent souvent chez leur mère, et les enfants sont très souvent élevés par la grand-mère maternelle. Donc il y a bien un tiers, mais d'une manière différente de ce qui se passe dans les affaires culturelles. Et lorsque je travaillais en Océanie, eh bien, le tiers, c'était la tribu. C'est-à-dire, c'était certainement pas le père. Dans le temps, c'était l'oncle maternel, hein, dans les sociétés à côté. Hein. Mais de nos jours, même si ça n'a pas complètement disparu, ça n'est pas que l'oncle maternel, même s'il a toujours un rôle et une fonction tout à fait essentielle. Mais ce qui vient faire tiers, de toute manière, c'est du collectif. Hein. Soit du côté maternel, ce qu'on appelle les frères de l'oncle, hein, donc l'oncle et ses frères, les hommes de sa génération, et la mère, ce sont les mères généralement, c'est-à-dire c'est la mère et ses sœurs. Tout ça pour dire qu'il y a toujours du tiers, ça c'est incontestable, mais selon des modalités qui sont tout à fait variables. Ce qui nous permet, je pense, aussi à nous, d'envisager les mutations culturelles un peu tranquillement, en sachant que ça n'est pas parce qu'elles ne se font plus forcément, enfin, ces relations familiales sur le mode que nous avons connu, que c'est la catastrophe. Il y aura du tiers, mais il y a à inventer un autre, d'autres modèles.
Écoutez, ça pose problème, je suis absolument d'accord là-dessus, ça pose problème. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de mœurs, il y a un changement dans la structure familiale. C'est la question de la structure de chacun quand on refuse le tiers, quand on refuse de se référer au tiers. Pour moi, j'ai défendu l'adoption par les homosexuels quand vous lisez mes livres, vous allez voir, j'ai commencé il y a 25 ans à défendre cette... Et c'était un débat houleux parfois entre les psychanalystes et moi, en disant que je suis complètement responsable, tout ça. Mais comment on tombe, nous, les psychanalystes, dans le piège quand on dit les homosexuels? On parle d'une massification. Il n'y a plus un homosexuel, c'est les homosexuels. Et on oublie qu'il y a homosexuel et homosexuel. Homosexuel ne signifie pas le pédéraste, ne signifie pas la tante, ne signifie pas la folle. Il y a des homosexuels respectables qui sont structurés, qui travaillent, qui ont une vie sociale, qui ont une famille, etc. Et je leur ai dit, notamment, je ne reçois pas un homosexuel, je reçois une candidature. Je ne reçois pas un hétérosexuel, je reçois un homme et une femme, une candidature, un couple qui candidate. Présentait-il les minimums qui garantit effectivement qu'un enfant peut être élevé en sécurité chez un couple ou pas, qu'il soit homosexuel ou qu'il soit hétérosexuel? Et l'expérience américaine et nord-européenne nous a indiqué qu'effectivement, même ce qu'on appelait les couples subversifs, c'est-à-dire l'homosexualité avec la subversion, dès qu'ils sont devenus parents, ils sont revenus à la société, garants de pratiquement les garants, plus que les couples homosexuels, des valeurs familiales. Ça, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans les pays nordiques. Ils revenaient à l'église, ils revenaient aux fêtes, ils revenaient effectivement à valoriser les liens familiaux comme personne. Et puis, on oublie une dimension aussi, qu'un homosexuel n'est pas seul, il a des parents, il a une famille, il a des amis, et qui veut dire que c'est vrai qu'il y a un couple homosexuel, mais il offre aussi à l'enfant, quand il est dans les liens avec ses parents, avec sa famille étendue, et il offre d'autres modèles. Il y a son père, il y a sa grand-mère, il y a sa tante, il y a son oncle, il y a ses cousins et ses cousines, et qui veut dire que quand on me pose la question, est-ce qu'on peut donner permettre à un enfant, à une personne seule d'adopter? Pour moi, quelqu'un qui a un lien fort avec une famille étendue n'est pas une personne seule. Il s'inscrit dans un lien à sa famille, et l'enfant est inscrit effectivement dans le lien à une famille étendue. Ce n'est pas ça la solitude. La solitude, c'est effectivement quand l'enfant vient pour remplir les vides chez cette personne. Là, il y a danger. Mais quelqu'un, effectivement, qui est dans le lien avec son entourage, permet à cet enfant d'entrer dans le cercle familial et puis avoir toute une possibilité d'identification aux hommes ou aux femmes, ou connaître un grand-père, une grand-mère, et ainsi de suite. Et ce qui arrive aussi avec un couple homosexuel. Le couple homosexuel n'est pas nécessairement isolé dans la nature. Ils sont des familles, ils ont des amis, ils ont des... Et il y a... Vous voyez, c'est pour cela il faut... Quand je disais ça aux psychanalystes, oui, mais il n'empêche quoi? C'est-à-dire, on a fait une théorie et on ne sait plus quoi faire avec notre théorie alors que le monde bouge. Et c'est pour cela que je suis d'accord qu'effectivement, il y a des modalités. Les modalités bougent aussi. Et moi, je vous racontais une anecdote parce que ça m'est arrivé quand j'étais enfant. Dans les villages au Liban, tous les adultes étaient responsables de nous. Je ne peux pas faire une bêtise à l'extérieur sans qu'un adulte se mêle pour me dire « Mais qu'est-ce qui t'est fait ?» Ils sont capables de me donner la fessée parce que j'ai fait une bêtise. Et ça ne fâche pas les parents parce qu'il a raison. Je me souviens qu'on était tout un groupe de copains, j'étais le plus jeune, je crois. Et il y a un de nous qui a acheté un paquet de cigarettes et puis il a distribué les cigarettes. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et moi, j'ai fait jouer au grand, j'avais une cigarette. Et voilà qu'une femme passe, elle nous regarde, elle vient vers moi, elle m'a dit: ça se voit que ta mère ne te donne pas la fessée, toi. Et elle vient, elle m'a donné la fessée. Et pourquoi elle m'a choisi? Parce que j'étais le plus jeune. Et moi, j'étais vexé. Une fois la femme est partie, j'ai jeté la cigarette. Et je n'ai même pas osé dire à mes parents qu'il y a une femme qui m'a donné la fessée. Et c'était tellement efficace. Je n'ai jamais fumé par la suite. Vous voyez comment, que, je veux dire, comment une société, quand même, une culture trouve les biais d'introduire un tiers.
Bon, on va s'attendre encore quelques minutes autour de ces questions, puis nous en terminerons. Pour aussi rappeler, ça nous ramène à la question de la dette, que voilà, il y a une participation libre aux frais pour cette conférence. Voilà, ça c'est une première chose. Là. La deuxième chose, c'est qu'on va enchaîner effectivement sur la présentation des enseignements et des activités de l'EPCO pour cette année. Il me venait peut-être, arriver vers la fin, enfin, je reprends très précisément quelque chose que tu avances dans ton livre, et que un enfant, ça vient toujours valider. Je te lis,
Ça fait.
Un enfant vient valider et justifier l'incomplétude de deux parents, des deux parents. Et donc, que tout enfant a cette charge-là, en quelque sorte, de répondre, en quelque sorte, de la castration de ses parents, de leur manque, on pourrait dire, tout simplement. Que cet enfant soit bio, si j'ose dire, ou qu'il soit adoptif. Ça change rien. Ça change rien en quelque sorte par rapport à ce rapport effectivement au fait que par rapport à cette question, qu'est-ce qu'on demande à l'enfant? Qu'est-ce qu'on lui demande? Je me souviens d'une très belle articulation que Gabriel Balbeau avait proposé, on l'a invité de nombreuses fois à une certaine époque ici, quand il disait comment s'engage en quelque sorte pour des parents leur propre narcissisme. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant est là interpellé, il est appelé en quelque sorte à venir réparer un peu le narcissisme évidemment de l'adulte, ce qui est toujours évidemment avec plein de trous, n'est-ce pas, plein de manques, etc. Et que c'est ça qu'on lui demande à cet enfant. C'est une charge absolument considérable.
Absolument.
C'est une charge absolument considérable et il lui faut effectivement, quels que soient ses parents, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient hétérosexuels, qu'ils soient. Qu'importe. En tout cas, il a affaire avec cette demande qu'on lui adresse. Voilà. Et que si, effectivement, quelque chose ne peut pas se négocier autour du manque, eh bien, évidemment, on est dans l'impasse. Et là, ça vaut pour toutes les configurations. Écoute, je te laisse terminer.
Écoute, ce que tu dis, ça se voit immédiatement dans les demandes de thérapie quand on reçoit les parents. Par exemple, je vous donne un petit exemple qui illustre parfaitement ce que tu dis. Les couples de parents qui disent on ne veut pas faire ce que nos parents ont fait. C'est-à-dire, ils sont en train de dire au moins trois choses. Les parents ne sont pas d'accord avec les parents, ne sont pas contents avec les parents sont manquants. Eux, ils veulent faire mieux que leurs parents. Ils ne veulent pas faire comme leurs parents parce qu'ils veulent faire mieux. comment ils vont faire mieux, le contraire de ce que leurs parents ont fait. Et puis, ils vont découvrir par la suite, à faire le contraire de ce que leurs parents ont fait, comment ça ne marche pas tout à fait. C'est pour cela qu'ils vont voir le psychanalyste, quelque chose qui ne va pas. Autrement dit, vous voyez comment ce que tu viens de dire se révèle sur génération après génération. On n'a pas réussi à faire de l'enfant un enfant rêvé. On n'a pas gardé une image des parents comme des parents héroïques. Comme, vous savez, quand Freud appelle le bébé His Majesty the Baby, mais en vérité, il n'y a pas que His Majesty the Baby, il y a le couple royal aussi, qui est le père et la mère. Et on découvre que c'est vraiment, dès que l'enfant commence à grandir, on découvre que la royauté est pipée. L'enfant n'est pas si majestique que ça, et les parents n'est pas si héros que ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou bien on part dessus et on va faire mieux que ses parents. Et là, on continue dans les malentendus de départ, dans cet enjeu narcissique dont il est question. Ou bien on va accepter l'idée de l'isolement, que les parents font ce qu'ils peuvent. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont fait avec leur névrose, ils ont fait avec leur histoire, ils ont fait avec leurs moyens. Et effectivement, le couple royal n'est pas si royal que ça. C'est des gens ordinaires, des névrosés ordinaires. Mais c'est justement la question des névrosés ordinaires qu'on a du mal à accepter. En tant qu'enfant et en tant que parent. Et c'est pour cela qu'on est toujours dans une espèce de fuite comme ça. Je suis pas là. Surtout quand il y a une rupture avec les parents, ou quand il y a des ruptures de parents avec l'enfant. C'est-à-dire comme si j'avais les intérêts vivants parce qu'ils ont raté leur travail auprès de moi. Ou parce que je n'ai pas honoré les parents, je n'étais pas à la hauteur de leur attente. Parfois, c'est ça la rupture. Parce qu'on ne veut pas accepter que l'image soit un peu platinée. Et c'est ça le narcissisme, le rapport narcissique entre l'enfant et les parents. Et c'est ce que les jeunes parents viennent nous dire quand ils disent on ne veut pas faire comme nos parents. Et il y en a qui poussent les choses encore plus loin. Jamais je ne confierai mon enfant à mes parents. Parce que, oh là là, et dans ce cas-là, c'est terrible, vraiment. Vous voyez à quel point les conflits et la rupture est aiguë. C'est ça là, comment accepter les manques. C'est tout le travail qu'on fait avec les parents et les enfants, c'est pour introduire, pour les réconcilier avec les manques, avec leur état de parents manquants, et l'enfant avec son état d'enfant manquant. C'est comme ça qu'on fait famille, sinon on ne fait pas famille. La famille s'y constitue parce que chacun accepte son statut de manquant, sinon il n'y a pas de famille.
Hein? On se fait une pause de 2-3 minutes, oui, hein, pas plus. Et puis, tout de suite après, on fait les annonces pour toute l'année. Hein, voilà.